Bienvenue sur Radio Rabelais avec Irina, Claire et Mylène dans un nouveau numéro d'Alter Ego, notre émission pour la solidarité et le refus des discriminations. Aujourd'hui dans Alter Ego, c'est l'antisémitisme qui est sur le banc des accusés avec un voyage dans l'histoire pendant la Seconde Guerre mondiale et un témoignage fort tout au long de notre émission, celui de Daniel Vancier, président du comité Nice Côte d'Azur, Yad Vashem, enfant caché pendant la Seconde Guerre mondiale pour échapper aux persécutions antisémites des nazis. Depuis, véritable gardien de la mémoire pour qu'on n'oublie pas le génocide perpétré par les nazis. Il n'a cessé de parcourir la France et l'Europe. Daniel Vancier, bonjour.
Bonjour.
Dans Alter Ego, aujourd'hui, il sera question de combat de Daniel Vancier pour éveiller des consciences, de ses souvenirs d'enfance traqués par les nazis pour ses origines et des justes qui ont aidé les juifs. Pour commencer notre émission, Mylène va rappeler à nos auditeurs les grandes lignes de la politique antisémite de l'Allemagne nazie et de ses conséquences en France où le régime de Vichy a choisi de collaborer avec l'occupant allemand.
Les persécutions antisémites débutent en 1933 dès l'arrivée d'Hitler au pouvoir en Allemagne. Elles sont symbolisées en 1935 par les lois de Nuremberg qui ont pour but d'exclure les juifs de la communauté nationale allemande et de provoquer leur exil. La nuit de cristal de novembre 1938 franchit un nouveau palier dans les violences anti-juives mises en œuvre par les milices du parti nazi. Le bilan fait état d'une centaine de morts, de très nombreux suicides, de milliers d'arrestations suivies d'internements dans les camps de concentration, tandis que beaucoup de lieux de culte et de biens juifs sont détruits. Le 20 janvier 1942, les dignitaires nazis et des officiers SS mettent au point la déportation des juifs d'Europe vers les camps d'extermination situés en Pologne et organisent le génocide. En France, le gouvernement de Vichy, du maréchal Pétain, promulgue dès 1940 une série de lois à l'encontre des juifs. Un statut des juifs est instauré pour les exclure peu à peu de la société française. Le 16 juillet 1942, le gouvernement de Vichy participe à la rafle du vélodrome d'hiver qui conduit à l'arrestation et à la déportation de près de 13 000 juifs. En 2 ans, Vichy collabore à la déportation de près de 80 000 juifs français et 2500 seulement reviennent vivants des camps.
Monsieur Daniel Vancier, je rappelle que vous appartenez au comité français pour Yad Vashem, dont vous assurez la présidence pour la représentation sur la Côte d'Azur. Voulez-vous réagir au bref exposé de Mylène ?
Oui, simplement, je voudrais dire que quand les nazis en 1933 sont arrivés au pouvoir, l'Allemagne à cette époque-là était le pays le plus cultivé, qui avait le plus de prix Nobel, le plus d'artistes. Et dans ce pays-là, il y a eu des élections démocratiques, comme celles que nous avons eues il y a quelques mois à Nice. Et les nazis ont été élus avec 35% des voix. Et dès qu'ils ont été élus, ils ont supprimer tout de suite toutes les libertés. Ça veut dire simplement que quand on vote, il faut faire très très attention.
Pouvez-vous nous présenter le comité français pour Yad Vashem ?
Oui, alors Yad Vashem, c'est un institut qui a son siège à Jérusalem, qui a plusieurs missions. La première, c'est de décerner le titre de juste parmi les nations. On en parlera tout à l'heure et vous avez assisté à Pey le 3 mai à une remise de médaille. La seconde, c'est ce que je fais auprès de vous aujourd'hui en venant témoigner, la transmission de la mémoire de la Shoah, parce que la Shoah, c'est quelque chose qui a existé, qui était complètement impensable. Je vous raconterai tout à l'heure l'histoire de mon père, vous verrez que c'était complètement inimaginable et c'est arrivé. Donc, c'est la première fois dans l'histoire où on construit des usines, non pas pour construire des voitures, pour faire des tables, des vêtements, mais pour tuer le maximum de gens le plus vite possible. Quand je dis des gens, c'est des enfants, des femmes, des vieillards. Donc, à un événement exceptionnel, il y a un prix et une médaille exceptionnelle, telle que vous l'avez vu à Pey. Aussi, Yad Vashem cherche à répertorier tout le nom des déportés. Vous l'avez dit tout à l'heure, en France, il y a eu 80 000 personnes, près de 80 000 personnes déportées. Il y a Serge et Beat Klarsfeld qui ont fait un travail remarquable, c'est répertorier les noms, les prénoms, les dates et lieux de naissance des déportés. Nous sommes le seul pays à l'avoir fait. En Hongrie, par exemple, où toute la communauté a été détruite, nous n'avons aucun nom, aucune archive. Donc nous cherchons le nom des déportés qui ont péri.
Quelles sont les principales actions que vous menez avec les écoliers, les collégiens et les lycéens ?
Alors, venir témoigner, pas seulement moi, enfant caché, mais surtout avec des déportés également, participer comme je le fais aujourd'hui avec vous à une émission de radio, faire des cérémonies. Nous organisons aussi ce que nous appelons les marches de la mémoire. Tout à l'heure, on parlera peut-être des Alpes-Maritimes où nous sommes. Et les Alpes-Maritimes ont été occupées jusqu'au 8 septembre 1943 par les Italiens qui n'appliquaient pas les lois raciales. Le 9 septembre, les Italiens se sont retirés, les Allemands sont arrivés et immédiatement, les arrestations ont commencé et les personnes qui étaient dans l'arrière-pays ont fui par les montagnes pour aller en Italie. Et chaque année, au mois de septembre, nous commémorons cette marche et nous allons dans l'arrière-pays. Et souvent, nous emmenons des collégiens, des lycéens participer à cette marche.
71 ans après la libération d'Auschwitz, quel message souhaiterez-vous passer aux jeunes générations ?
Alors, pour vous, les jeunes générations, d'abord, je vous l'ai dit tout à l'heure, dans 2 ans, dans 3 ans, vous voterez de façon démocratique. Faites attention à ce que vous votez, réfléchissez bien. Les extrêmes, nous savons maintenant où cela conduit. Cela conduit aux usines de la mort. Également, il y a un devoir de citoyen, c'est-à-dire que lorsqu'il y a quelqu'un de différent, qui n'a pas la même couleur de peau, qui n'a pas la même origine, qui n'a pas la même croyance, qui n'a pas les mêmes opinions, on essaye d'inculquer la tolérance envers autrui, de ne pas avoir peur d'une personne parce qu'elle est différente, soit physiquement, soit mentalement.
Vous êtes intervenu dans les écoles et les collèges de Vitrolles en 2014 dans le cadre d'exposition Anne Frank, dont nous rappelons le souvenir avec Louis Chédine, Anne Masserane.
Anne Masserane, si je te disais ce que je vois venir, Anne Masserane, j'arrive pas à y croire, c'est comme un cauchemar, sale cafard. Anne Masserane, en écrivant ton journal du fond de ton placard, Anne Masserane, tu pensais qu'on n'oublierait jamais, mais mauvaise mémoire, elle ressort de sa tanière, la nazie nostalgie. Croix gammée, bottes à clous, oui, toute la panoplie. Elle a pignon sur rue, des adeptes impartis. La voilà revenue, historique, hystérique. Anne Masserane, ce que j'entends, Anne Masserane, les mêmes discours, les mêmes slogans, les mêmes aboiements, Anne Masserane, j'aurais tant voulu te dire, petite fille martyre, Anne Masserane, tu peux dormir tranquille, elle reviendra plus. La vermine met beaucoup d'indifférence, de patience malvenue. Pour ces anciens damnés, beaucoup de déjà vu, beaucoup trop d'indulgence, trop de bonnes manières. Pour cette nazie nostalgie qui ressort de sa tanière, comme hier à ma soeur. Anne Masserane.
De retour sur Alter Ego, sur Radio Rabelais, avec notre invité Daniel Vancier, président du comité Yad Vashem Nice-Côte d'Azur. Claire va l'interroger sur son enfance pendant la Seconde Guerre mondiale, où il a dû vivre caché pour échapper aux nazis.
Monsieur Vancier, pourquoi votre famille a-t-elle été la cible de la barbarie nazie ?
Simplement parce que nous étions une famille d'origine juive. Mes parents sont venus en 1930 en France, de Pologne, parce qu'ils étaient considérés là-bas comme des citoyens de seconde zone. Ils n'avaient pas les mêmes droits que les autres. Mes parents ne savaient pas lire et écrire parce qu'ils n'ont jamais eu l'occasion d'aller à l'école, c'était interdit. Et puis, la France a une image très très forte dans les pays étrangers. La France, c'est le pays des droits de l'homme, c'est le pays des libertés, c'est le pays de Victor Hugo, c'est le pays d'Émile Zola. Beaucoup d'étrangers qui sont dans leur pays des citoyens de seconde zone ou qui souffrent, qui n'ont pas les mêmes droits que les autres, désirent venir en France. Ce que je veux ajouter, c'est que mes parents n'étaient pas du tout religieux, n'allaient pas à la synagogue. Aussi de dire que mes parents parlaient le yiddish, c'est la langue d'Europe centrale, des juifs d'Europe centrale, qui est dérivée de l'allemand du Moyen-Âge. Et ma langue maternelle, la langue que j'ai parlé jusqu'à l'âge de 7 ans, jusqu'après la guerre, c'est le yiddish.
Qu'arrive-t-il à votre famille le 16 et 17 juillet 1942 ?
Le 16 juillet 1942, c'est la rafle du Veldiv. Nous sommes à Paris. Mon père a déjà été arrêté le 14 mai 1941 par ce qu'on appelle le billet vert. Simplement, c'était une convocation de couleur verte qu'il reçoit, qui dit « Vous êtes prié de vous présenter au commissariat de police pour affaires vous concernant. » Mon père, qui était donc polonais, qui demandait sa naturalisation, est persuadé que c'est pour avoir des papiers pour être naturalisé français. Pas du tout. Immédiatement, on l'emprisonne et on le met dans un camp d'internement à Pithiviers. Je vous raconterai la suite tout à l'heure. Pendant ce temps-là, ma mère, ma sœur, qui a 4 ans de plus que moi, et moi, on est arrêtés à 6h du matin, le 16 juillet 1942, par des policiers français, des gendarmes français. Il n'y a aucun Allemand parmi les personnes qui nous arrêtent. Simplement, c'est la première fois qu'on arrête, le 16 juillet 1942, des enfants. Nous montons dans l'autobus qui doit nous conduire au Veldiv. Ma mère comprend que quand on arrête des enfants, moi j'avais 4 ans à cette époque-là, ma sœur 8, c'est jamais pour partir en colonie de vacances, gardée par des policiers. Elle comprend que ce n'est pas bien. Il y a aussi des vieux, des handicapés dans l'autobus. Elle dit aux policiers, j'ai des paquets à prendre, il faut que les enfants viennent me chercher, viennent m'aider à porter les paquets. Allez savoir pourquoi, le policier lui a dit, vas-y mais reviens vite. On habitait à ce moment-là à Paris, dans une maison où il y avait des cours intérieures. On se cache dans la cave de la troisième cour intérieure. Le car part au bout de quelques heures. On reste dans cette cave jusqu'au soir, et le soir on va dans le métro à Paris parce qu'il n'y avait pas de rafle la nuit dans le métro. Alors si vous voulez, je vous raconterai la suite des événements, ensuite ce qui s'est passé. Il y a forcément des péripéties.
Comment arrivez-vous à échapper aux policiers ?
Alors voilà, donc aux policiers en descendant de l'autobus, comme je vous l'ai dit, et en se cachant. Et ensuite, à cette époque-là, la France était divisé en deux. Il y avait la partie nord qui était ce qu'on appelait la zone occupée. Elle était occupée par les Allemands et le maréchal Pétain, qui avait pris le pouvoir, collaborait avec les Allemands. Et la partie sud, où nous sommes, de la France, c'était considéré, entre guillemets, comme zone libre. Et pour passer cette frontière qu'on appelait la ligne de démarcation, il fallait traverser une rivière. On montait d'un côté de la rivière, le nord, c'était la zone occupée, et on traversait la rivière, et de l'autre côté, c'était la zone libre. Il fallait un passeur. Ma mère avait une bague, je vous rappelle, on était dans le métro, les gens nous donnaient un peu à manger, ce qu'ils avaient. Ma mère avait une bague, elle la donne à un passeur. le passeur qui nous conduit, ça se passe du côté de Chalon-sur-Saône, qui nous conduit à cette fameuse ligne de démarcation. Nous arrivons là, nous montons dans la barque, le passeur reste, et quand on arrive de l'autre côté de la rivière, immédiatement on est arrêté. On est arrêté par la milice. La milice, c'est ni la police, ni la gendarmerie, ni l'armée. C'est une force, c'est qui a l'autorité et qui obéit uniquement au chef de l'État. Il n'y a aucune morale. Et la milice, à l'époque, touchait de l'argent pour chaque juif arrêté. Un enfant comme moi valait pas grand-chose, mais il valait quand même un petit peu. Ma sœur, qui était un peu plus âgée, valait un peu plus cher. Vos professeurs, s'ils sont là, valaient beaucoup plus cher s'ils étaient arrêtés. Votre principale, directrice du collège, alors là, elle valait très cher. Alors là, nous sommes arrêtés, conduits au camp de Rivesaltes, à côté de Perpignan. C'est un camp d'internement. D'où, si vous le souhaitez, je vous raconterai tout à l'heure. J'ai pu aussi m'échapper.
Pouvez-vous nous parler de l'accueil que vous avez reçu avec votre sœur dans les fermes dans lesquelles vous vous êtes caché en zone libre ?
Voilà. Alors, donc, on est au camp de Rivesaltes avec ma sœur et ma mère. Séparés, bon, les conditions d'hygiène, de nourriture sont difficiles. Il y a des maladies. Ma mère avait une amie qui habitait à côté de Toulouse. Perpignan, c'est pas loin de Toulouse. Elle arrive à la joindre et lui dit, ma mère dit à cette amie, essaye au moins de sauver les enfants. Cette amie qui avait un peu d'argent, sous-doit, c'est-à-dire paye un paysan qui livrait des pommes de terre dans le camp de Rivesaltes. Au bout de 5 à 6 semaines, une nuit, ce paysan qui livrait des pommes de terre dans le camp de Rivesaltes, on nous met vers 3 heures du matin, ma sœur et moi, au fond d'une charrette tirée par un cheval. On nous met de la paille dessus et on sort du camp. Et immédiatement, on est séparés, ma sœur et moi, et cachés dans des fermes. Ma sœur d'un côté et moi de l'autre. Pendant 2 ans et demi, aucune nouvelle. Ma mère est restée dans le camp. Imaginez le courage d'une femme qui a 2 enfants... qui laisse ses enfants partir vers l'inconnu complètement sans savoir où ils allaient. Alors je vais vous dire, dans les fermes où j'étais, je ne restais jamais très longtemps parce que il y avait des questions de sécurité. Je vais vous dire simplement 2 souvenirs marquants. D'abord, j'ai appris là la peur. Parce que dès qu'on entendait à cette époque-là, il n'y avait pas des routes comme maintenant, c'était souvent des pistes. Et qui amenait dans les fermes, et les gendarmes, les policiers, la milice venaient en moto. Dès qu'on entendait une moto, il fallait que je me cache. Soit dans une grange, soit dans une cave, soit dans une forêt, s'il y en avait une. Donc ça, c'est la peur. Dès qu'on entendait une moto, j'avais peur. Mais surtout, ce que j'ai appris, c'est l'injustice. C'est-à-dire, quand j'étais dans certaines fermes, je faisais les mêmes travaux que les enfants des fermiers, c'est-à-dire on allait chercher les œufs, on ramassait les pommes de terre, on gardait les vaches, on ramassait des fois dans des fruits, on donnait à manger aux cochons. Donc je faisais le même travail, mais c'est normal, que les enfants des fermiers. Mais quand on allait manger à table, les enfants des fermiers avaient plus à manger que moi. Et ça, un enfant de 4, 5, 6 ans ne comprend pas. Il vit exactement, il a le même âge que les autres enfants. Il a moins à manger que les autres. Et ça, c'est très dur. C'est comme si vous, ici, à la cantine, il y avait certains qui auraient moins à manger que les autres. Pourquoi ? Il n'y a aucune raison. Un enfant ne comprend pas ça.
Merci, Monsieur Vancier. Les auditeurs de Radio Rabelais vous retrouveront pour de nouveaux témoignages dans un prochain numéro d'Alter Ego.